Et donc, bonsoir à tout le monde, à ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure. Je m'appelle Gaël Wagoum. Je suis pasteur à l'église de Chelles. Je suis le mari d'une magnifique femme qui n'est pas là ce soir. Elle a dû rester avec les enfants. Et on a trois enfants, justement. Un grand qui a 4 ans et demi, une petite de 3 ans et demi, et le dernier tout frais qui a 9 mois maintenant. Et on vit à Chelles. Très content, et d'ailleurs, merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites de m'inviter ici, non seulement pour passer ce temps-ci avec vous, j'ai beaucoup apprécié ce qui s'est passé tout à l'heure, mais aussi, surtout d'ailleurs, de pouvoir ouvrir l'écriture avec vous. Et pour parler de quoi ? Du pardon. Thème ô combien important pour un chrétien. Le pardon. Le don du pardon. Le sujet du pardon est large, ok? Et donc, je n'ai pas la prétention, cet après-midi, de toucher à tous les aspects du pardon. Je vais parler de la mécanique, du moteur pour le don du pardon. Et si plus tard, vous voulez qu'on aborde un autre aspect de ce pardon-là, ce sera avec grand plaisir, on pourra en discuter. Donc, pour l'instant, je vous invite à trouver dans vos Bibles, Matthieu chapitre 18, des versets 21 à 35. Matthieu 18, 21 à 35. Je lis. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai. Et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à terre, le supplia disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis ta dette en entier parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ah, excellent texte. Et merci pour les mises en situation de tout à l'heure. Ok. Est-ce que vous avez remarqué que c'est bien Israël, c'est ça? Israël et Kevin, eux aussi n'ont pas été mis en situation. Ils ont donné des papiers à tout le monde, mais eux n'ont pas été mis en situation. Ok. Et donc maintenant, j'ai une mise en situation pour eux deux. Non, pour tout le monde. On est en juin 1942, à Mauthausen, dans un camp de concentration. Il y a là entassé plein de juifs qui qui sont arrêtés et qui attendent de mourir comme les autres. Dans ces camps de concentration, ces personnes qui sont là sont comme des prisonniers. Ils doivent faire des tâches manuelles. Il y en a un en particulier, si tu veux bien, merci. Il y en a un en particulier, il s'appelle Simon Wiesenthal. Comme tous les prisonniers, Simon doit faire des tâches aussi. Et ce jour-ci, il doit nettoyer dans une grange qui a été aménagée pour devenir une infirmerie. Dans cette infirmerie, on soigne qui ? On soigne les soldats nazis allemands. Pendant qu'il fait le ménage et qu'il est en train de tout nettoyer, il y a une infirmière qui vient, qui le prend par la main et qui l'emmène jusque sur un lit. Et couché sur ce lit, l'histoire raconte qu'il y a là un jeune soldat allemand. Il a 21 ans. Son visage est bandé avec des chiffons. Vous pouvez voir sur le livre. Hein. Son visage est bandé avec des chiffons. Et il coule du pu de partout. Il saisit la main de Simon Wiesenthal. Il saisit sa main très fort. Parce qu'il voulait parler à un juif. Il ne voulait pas mourir avant d'avoir confessé les péchés qu'il avait commis contre les juifs. Il voulait être pardonné par un juif avant de mourir. Il a raconté son histoire à Wiesenthal. Il a même raconté à Wiesenthal qu'un jour, ses collègues et lui sont allés mettre le feu à une maison où vivaient des juifs. Et lorsque les juifs piégés dans cette maison ont essayé de sortir pour s'échapper, il les attendait à l'entrée et il leur a tiré dessus, un à un. Après avoir entendu l'histoire, Wiesenthal a retiré sa main de celle du soldat mourant et est sorti de la grange. Aucun mot n'a été prononcé, aucun pardon n'a été accordé. Wiesenthal ne voulait pas, il ne pouvait pas pardonner. Mais il n'était pas sûr d'avoir bien agi. Wiesenthal a finalement échappé au massacre et quelques années plus tard, il a écrit ce livre, The Sunflower, Le Tournesol. Et Wiesenthal, c'est le monsieur juste à côté. Il a écrit ce livre, tourmenté par l'histoire. Et dans ce livre, il raconte son expérience dans ce camp de concentration et il raconte en particulier l'expérience avec ce jeune soldat. Troublé. Ne sachant pas s'il avait bien réagi ou pas, il termine son livre avec cette phrase, avec cette question. Qu'auriez-vous fait? Mise en situation. Ok. Tout à l'heure, on a eu des mises en situation aussi difficiles, aussi tragiques les unes que les autres. Et en réalité, frères et sœurs, je pense que nous sommes ici dans une salle de culte. Nous sommes des chrétiens. Et donc, on a la tendance naturelle à vouloir donner la bonne réponse. Pas la vraie réponse, ok? On veut donner la bonne réponse, celle qui fait chrétien, celle qui fait pieux, celle qui convient au lieu dans lequel nous sommes, celle qui convient au statut de chrétien que nous portons sur nous. Et pourtant, il y a une vraie réponse qu'il faudrait donner. Je suis absolument d'accord qu'il faut qu'on tende vers cette bonne réponse-là. Mais comment faire pour être sûr que cette personne, cet enfant qui tue mon enfant, je lui donnerai le pardon? Qu'est-ce qui prouve que je serai capable de faire ça? Qu'est-ce qui prouve que je serai capable de pardonner à ce mari qui écrase et étouffe le bébé? 32 personnalités éminentes pour la plupart des juifs ont essayé de répondre à cette question-ci. Pour la plupart, ils ont dit que Wiesenthal avait raison, qu'il n'aurait pas dû pardonner aux soldats nazis, parce que s'il avait pardonné, ça n'aurait pas été juste. Le soldat aurait cru que la Shoah n'était pas très grave. Et il y en a même une personne qui a dit que ce soldat nazi aille en enfer. Et voilà, frères et sœurs. Quelle réponse? Quelle est votre réponse? Qu'auriez-vous fait? Gardez bien en tête, si vous voulez bien, cette question. Réfléchissez-y pendant qu'on va parcourir notre parabole. Ok? On n'oublie pas, c'est notre texte qui doit nous bouleverser plus que l'histoire de Wiesenthal. Ok? Personnellement, je ne connais pas d'autres paraboles dans la Bible qui soient aussi simples à comprendre et pourtant si difficiles à vivre que celles qu'on a ici cet après-midi. Tout le monde est d'accord avec cet enseignement. Tout le monde désapprouve ce qu'on vient de lire. Même les non-chrétiens, je suis sûr, ne seraient pas du tout d'accord. Si je lisais ce passage, je pense même que pendant que je lisais ce passage, vous avez ressenti une certaine indignation face à l'attitude de ce serviteur vis-à-vis de son compagnon. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi n'a-t-il pas pardonné à son compagnon? Et peut-être même que quand j'ai lu le verset 34, vous vous souvenez, hein, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé. Et là, on s'est dit, ah ouais, quand même, un peu de justice, oh là là. Hein? Et pourtant, frères et sœurs, comment réagissez-vous maintenant lorsqu'on lit ce verset 35? C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Je rappelle que ce texte-ci, Jésus raconte cette histoire à la suite d'une question que Pierre lui a posée au verset 21. Combien de fois je dois pardonner? Est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois? Et en fait, en disant 7 fois, en proposant 7 fois, Pierre fait déjà preuve de maturité spirituelle. Parce qu'à cette époque, il était communément admis qu'on pouvait pardonner la même erreur max 3 fois. Tu me fais ça, je te pardonne. Tu fais ça, je te pardonne. Tu fais ça, je te pardonne. Tu refais, je te mets une claque. Là, ça marche plus. Je pardonne. 3 fois, c'était le max. Et ici, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie par 2 et il dit, ah tiens, je rajoute un bonus. 7 fois. Et Jésus va lui dire, non. Jésus lui dit que 7 fois, c'est rien. Mais il faut pardonner 7 fois 70, c'est 70. 7 fois 70 fois, c'est-à-dire 490 fois. La même erreur. En réalité, Jésus est en train de lui dire, pardonne sans compter. Pardonne encore, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Pardonne encore et encore. Et pour aider Pierre à comprendre que 7 fois est un nombre ridicule pour le pardon, Jésus va donner cette parabole avec la conclusion qu'on a au verset 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Cette conclusion rejoint bien ce que Jésus a déjà dit dans Matthieu 6. Alors, je pense que la plupart des versets que je vais lire ici, je me réjouissais quand on les lisait ici, ce sont plus ou moins les mêmes versets que je vais redire. Dans Matthieu chapitre 6, dans le Notre Père, qu'est-ce que le Seigneur en prend à dire? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Selon Jésus, il y a un lien fort entre le pardon que nous on reçoit de Dieu et le pardon qu'on donne au prochain. C'est-à-dire que pour Jésus, le pardon qu'on donne au prochain n'est pas facultatif. Ce n'est pas si je veux. Au contraire, il dit, vous devez pardonner. C'est ça qu'on a vu au verset 33. Regardez verset 33. Ne devais-tu pas pardonner aussi? Vous voyez? Il y a une sorte de quoi? Ah, le mot va être difficile. D'obligation à pardonner. Et c'est ici que ça devient tendu. Ok? Ça devient tendu. Pourquoi? Jésus dit que c'est un devoir de pardonner. Et donc, c'est un devoir de pardonner à un frère qui détruit notre réputation dans l'Église. Jésus est en train de dire que c'est un devoir de pardonner à un parent qui n'a pas joué pleinement son rôle vis-à-vis de nous. Jésus dit que c'est un devoir de pardonner à une amie qui n'en a pas été une pendant qu'on avait besoin d'elle. Jésus dit que c'est un devoir de pardonner à un conjoint qui a pris de mauvaises décisions, qui ont entraîné le couple et la famille dans des difficultés terribles, sans précédent. Et ce que Jésus dit, c'est quoi? C'est qu'on a le devoir de pardonner. Ça devient tendu ici, en fait, frères et sœurs, parce que le pardon n'est pas la chose la plus naturelle chez l'être humain. Face à l'injustice et à la souffrance, nous croyons que notre haine est la seule carte qu'on a à main. On pense que c'est le mépris qui est la seule option qu'on a devant nous. On pense que c'est la vengeance. Je pense que c'est Louis XII, il me semble, roi français, qui a dit que il n'y a pas de meilleur parfum que l'odeur du cadavre de son ennemi. Vous imaginez? Il n'y a pas de plus. Il dit qu'il n'y a pas de meilleur parfum. Même le Gucci ou je ne sais pas trop, c'est rien. L'odeur du cadavre de son ennemi. Ah, j'ai assouvi ma vengeance. Je confesse avec vous que ce que Jésus demande est énorme. C'est difficile, ça coûte. Mais en réalité, derrière ce devoir de pardonner, Jésus donne dans cette même parabole le mécanisme puissant, ultime, la puissance qu'il faut pour le pardon. Ok? J'espère que vous allez suivre ça avec moi et qu'à la fin, on va se dire, ah, maintenant je sais comment pardonner. Et c'est quoi ce mécanisme? C'est l'Évangile. Il n'y a que l'Évangile qui donne le vouloir et la force pour pardonner aux autres, et c'est bien par là qu'il faut commencer. Alors, nous allons prendre cette parabole et voir premièrement qu'est-ce que l'Évangile, ce grand message de la Bible qui va nous permettre de pardonner aux autres. Tu peux aller exactement, très bien. Verset 23, donc l'Évangile comme moteur du pardon. Et premièrement, on va parler d'une dette infinie. Regardez de nouveau le verset 23. Dans le verset 23, on voit que Dieu va demander des comptes à tous, comme ce roi-ci. Okay? Il a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. De la même façon, Dieu va nous appeler à rendre compte. Vous savez ce que Paul dit dans Actes 17 au verset 30. Dieu a fixé un temps où il va juger, il va appeler chacun en jugement. Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 16, il dit que « Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Vous voyez, toute œuvre, Dieu va juger toute œuvre. Il va nous demander des comptes par rapport à tout ce que nous avons fait. En Matthieu chapitre 12, versets 36 et 37, il est dit que Jésus dit qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Dieu va juger nos œuvres, il va juger quoi encore? Nos paroles. Et en Hébreux chapitre 4, on voit que on rendra aussi compte pour les sentiments et même les pensées de nos cœurs. Voilà ce que Dieu jugera chez chacun de nous. La parabole que Jésus nous donne nous aide à voir le péché comme étant une dette accumulée auprès de Dieu. C'est l'exemple que Jésus prend pour expliquer la situation. Nous les hommes, nous devons à Dieu une obéissance totale, parfaite, sans erreur. Et à chaque fois qu'on se détourne de la volonté de Dieu, chaque fois qu'on ne fait pas exactement ce que Dieu veut et attend de nous, qu'est-ce qu'on fait? En réalité, on entre en dette vis-à-vis de Dieu. Et en réalité, chacun de nous ici a une dette infinie vis-à-vis de Dieu. Dans la parabole, Jésus parle de combien? 1000 talents. Selon le dictionnaire biblique, alors déjà 1000 talents, c'est énorme. Je vais vous montrer en quoi c'est énorme. C'est énorme. Déjà, c'est la somme la plus élevée. C'est le montant le plus élevé qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Donc, il n'y a pas plus grand montant dit dans le Nouveau Testament. Et selon le dictionnaire biblique, un talent, c'est 6000 deniers. Ok? Un talent, 6000 deniers. Et dans Matthieu chapitre 20, au verset 2, on lit que il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Et donc, en gros, ce qu'on comprend, c'est que un denier, c'était le salaire convenable pour une journée de travail. OK? Et donc, frères et sœurs, si on doit faire la conversion, on doit se dire que 10 000 talents, c'est 60 millions de deniers. Et donc, c'est 60 millions de jours de travail. Vous vous rendez compte? 60 millions de jours de travail. C'est ça que ce gars devait à son patron, à son roi. 60 millions de jours de travail. Et même si vous commencez à travailler dès la naissance, de la sortie du ventre de la maman, et que vous travaillez 365 jours sans vous arrêter, il faudra 164 000 ans pour rembourser cette dette-ci. Je ne sais pas si vous... Alors, je vois les visages qui se crispent, d'autres qui rigolent, nerveux, parce que je crois qu'on a compris finalement ce que c'est. La dette est infinie. On ne peut pas payer cette dette-là. Et c'est exactement notre état devant Dieu, nous aussi. Nous nous trouvons dans la même situation. Notre dette envers Dieu est infinie. Non pas parce que nous avons commis 60 millions de péchés, mais parce que c'est plutôt parce que nos péchés ont offensé un Dieu qui est infini, infiniment grand, infiniment saint, infiniment glorieux. Et nous avons amassé envers lui une dette infinie. Un seul péché contre Dieu, contre un Dieu infiniment grand, infiniment saint, infiniment juste, nécessite un paiement infini pour l'effacer. Toutes nos bonnes œuvres ne pourront pas effacer notre dette. Je veux dire que 60 millions de prières ne seront pas suffisantes pour payer ce qu'on doit. 60 millions de larmes ne seront pas suffisantes pour apaiser, pour solder notre dette. 60 millions d'euros qu'on pourrait même donner en offrande ne seront pas suffisants. Il n'y a rien qu'on puisse faire ou donner à Dieu pour payer notre dette. Il y a un autre point qu'on voit toujours dans ce texte. On voit qu'avec cette dette infinie, il y a une punition infinie. Regardez au verset 34. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Alors, il devait rester chez les bourreaux jusqu'à payer tout ce qu'il doit. On sait qu'il a une dette de 10 000 talents, 60 millions de jours de travail. Et on sait aussi que généralement, en prison, on ne gagne pas, on gagne rien. Ou si oui, très peu. Okay? Alors, question. Vous imaginez le nombre de temps qu'il faudrait pour qu'il puisse payer ça? C'est impossible. Il faudrait un temps infini. En réalité, cet homme n'arrivera jamais à payer sa dette. Et donc, il va rester indéfiniment chez les bourreaux. Et ça, en fait, c'est une petite idée de ce qu'est l'enfer, finalement. C'est-à-dire que l'enfer, finalement, c'est ce moment, c'est cet endroit où ceux qui ont une dette contre vis-à-vis de Dieu, payent. La dette est infinie, alors le paiement est infini. Mais à côté de ça, on en arrive donc à quelque chose d'un peu plus réjouissant, parce que jusqu'ici, jusqu'à présent, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Hein. On a dit Dieu va nous demander des comptes, nous sommes endettés de façon infinie vis-à-vis de Dieu. On a vu que notre dette est infinie aussi. Et donc, il faut quelque chose d'infini pour régler les comptes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un pardon infini aussi qui est apporté dans cette même parabole. On voit ça dans les versets 26 à 27. Tout change. Le roi qui représente Dieu fait quelque chose de surprenant. Au verset 26, on dit « Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Il pense pouvoir payer. Il n'a même pas conscience que sa dette est infinie. Mais au verset 27, qu'est-ce qui se passe ?« Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller. » et lui remet sa dette. On apprend donc ici, ce qu'on voit donc ici, ce qu'on apprend de Dieu ici, c'est que Dieu est un Dieu qui est plein de compassion. Il est plein de miséricorde. Il est prêt à pardonner. Il est prêt à effacer la dette comme le roi a fait pour cet homme. Il ne s'agit pas d'une réduction. Il ne s'agit pas d'un report de paiement. Il lui a remis sa dette. En fait, dans le grec, le mot remis, c'est pardon. C'est le mot pardon le même mot qui a été utilisé au verset 21. Et donc, en gros, ce qu'on devrait dire, c'est « Il lui a pardonné sa dette. » Vous voyez? En réalité, ce dont Jésus parle dans cette parabole, c'est plus du péché que de l'argent, finalement. Le pardon de la dette. Essayez d'imaginer maintenant. En sortant de l'entretien avec le roi, cet homme n'a plus de dette. Il est quitte avec le roi. Vous imaginez son cœur? Il avait 60 millions de jours de travail à payer. Et maintenant, il ne doit plus rien. Imaginez la joie de son cœur. Son avenir est complètement changé. Il ne se réveille plus le matin avec la boule au ventre en pensant aux 10 000 talents qu'il doit au roi. Il ne s'inquiète plus de rencontrer le roi. Il ne doit plus se cacher. Il n'a plus peur pour sa famille. Il est tout de suite délivré d'un poids immense qui pesait sur lui. Frères et sœurs, c'est exactement comme cela que Dieu, dans sa grâce, dans sa compassion, nous pardonne de nos péchés. Et c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Dieu pardonne. Il aime pardonner. Le prophète Ésaïe, en Ésaïe chapitre 55, au verset 7, dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Notre Dieu qui ne se fatigue pas de pardonner. Lorsqu'on s'humilie devant lui et qu'on lui demande pardon, il nous offre le plein pardon. Et ce pardon est glorieux, ce pardon est incroyable et immense. Et comme cet homme, à l'instant, tout change pour nous. Nous sommes désormais en paix avec Dieu. Tout est transformé pour nous. C'est incroyable. Il n'y a plus aucun poids sur notre conscience. Lorsque Dieu prononce son pardon sur nous, alors s'accomplit exactement ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 2. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous est complètement effacé, détruit à la croix. Désormais, on peut affronter l'avenir avec confiance et assurance. On peut envisager même désormais de rencontrer ce Dieu avec joie. Voilà le pardon que Dieu offre en Jésus dans l'Évangile. Quel beau message, frères et sœurs. Quel message libérateur. Quel message salvateur. Maintenant, le pardon en pratique. Alors, je vais dire quelque chose. En réalité, dans la Bible, il n'y a pas de protocole pour le pardon. Vous voyez? Je veux dire, il n'y a pas de recette pour pardonner à quelqu'un. On ne dit pas tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a, c'est le modèle du pardon. Tout ce qu'on a, c'est l'exemple du pardon. Et je vous assure que c'est déjà suffisant. Ce modèle, cet exemple-là est déjà suffisant. Dans la Bible, nous avons le modèle, l'exemple, et ensuite nous avons le commandement, celui de pardonner à notre prochain. En Éphésiens chapitre 4, verset 32, nous lisons ceci. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon est essentiel dans l'Église de Jésus. Les familles se brisent, les mariages se déchirent, les églises se détruisent. Pourquoi ? Pas seulement parce qu'il y a eu des problèmes. Évidemment que les problèmes, c'est pas correct. Mais c'est pas spécial. C'est pas seulement parce qu'il y a eu des problèmes. C'est non seulement parce qu'il y a eu des problèmes, mais c'est aussi parce qu'il y a au moins une ou plusieurs personnes qui refusent de pardonner, qui ne veulent pas pardonner. C'est pour ça que les familles se déchirent. C'est pour ça que les mariages tombent en lambeaux. C'est pour ça que les églises se détruisent et se divisent. Il n'y a pas de relation où le péché n'existe pas. Il n'y a pas de relation où il n'y a pas d'offense. Qu'il s'agisse d'un mariage, d'une famille, d'une amitié, d'un groupe d'études bibliques, d'une église. Nous ne pouvons pas survivre sans le pardon. J'ai besoin du pardon. Vous avez besoin du pardon. Tous ceux qui sont liés à moi, ma femme, mes enfants, mes amis, mes collègues, ils ont besoin de mon pardon. Et tous ceux qui sont liés à vous ont besoin de votre pardon aussi. Nous devons vivre dans un environnement où le pardon
est constant, où le pardon est présent, où le pardon est une culture, où le pardon est une joie. Qu'est-ce que ça changerait, frères et sœurs? J'ai une question pour vous, les amis. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous demande, si je vous dis qu'on demande de plus, en tant que chrétien, on demande de plus pardon à Dieu qu'aux frères et sœurs? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Mais pourquoi, à votre avis? Moi, il me semble, je réfléchissais à cette question avec ma femme, et il me semble que on demande plus facilement pardon à Dieu parce qu'on sait, on est convaincu qu'en Dieu, on trouvera toujours le pardon. Vous voyez, on trouvera toujours, on aura toujours le pardon. Si vous souhaitez avoir des relations saines dans votre entourage, alors installez une culture de pardon. Les gens viendront demander pardon parce qu'ils savent que comme Dieu, vous avez de la joie à pardonner. Si dans votre couple, vous voulez qu'il y ait une culture de pardon, alors demandez pardon et donnez le pardon. Cultivez cela. Le temps n'a jamais pardonné à qui que ce soit. Le temps n'enlève, quand on dit on laisse passer un peu le temps et après l'offense va finir. Le temps n'a jamais pardonné à qui que ce soit. Le pardon se donne. Ok, il faut cultiver cette relation de pardon. Si vous voulez qu'il y ait une relation de pardon avec les enfants, alors pardonnez à vos enfants et demandez pardon à vos enfants. Ça va changer, ça transforme la relation de couple, ça transforme les relations familiales. Si vous voulez qu'il y ait du pardon dans votre église, demandez pardon et donnez le pardon. Dans Proverbe 19, le verset 11 qui a été lu ici, il est écrit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. » Frères et sœurs, est-ce que vous voulez bien, chaque fois qu'il est 19h11 à votre montre, vous souvenir de ce verset? Il y a de la puissance dans ce verset. Vous voulez avoir de la gloire. Vous voulez être un homme glorieux. Briller de gloire. Alors pardonnez. Prenez de la joie à pardonner. Mettez votre gloire non dans la haine ou la rancune, ni au mépris, mais au pardon. Exactement comme votre Seigneur. Et il me semble que le pardon est important parce que lorsqu'on pardonne, c'est à ce moment qu'on ressemble le plus à Dieu. Quel est le caractère, quel est l'attribut de Dieu qui est le plus connu dans le monde? Le pardon. C'est quand on pardonne qu'on ressemble le plus à Dieu. Alors maintenant, c'est très facile de savoir si on a compris l'évangile ou pas. Le test est simple. Est-ce que nous pardonnons aux autres de tout notre cœur? En fait, ce test que je dis ici, c'est Jésus qui l'applique dans la parabole. Vous avez vu? Est-ce que nous pardonnons aux autres de tout notre cœur? Si vous pardonnez aux autres, alors c'est la preuve que vous avez définitivement compris l'évangile de Dieu. Mais si vous ne pardonnez pas, c'est certainement la preuve aussi que vous n'avez pas compris tout de l'évangile, de la grâce et du pardon. Exactement comme l'homme de la parabole, ok? On ne comprend pas ce qui s'est passé avec cet homme-ci, dans les versets 27 et 28. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'a rien compris du pardon, de la pitié, de la compassion de son maître. Il a été incapable de montrer aux autres le pardon qu'il avait lui-même reçu. Et finalement, au verset 34, il est attrapé, jeté au bourreau. Celui qui ne pardonne pas n'a pas compris l'évangile de Dieu. Mais celui qui pardonne prouve qu'il a compris la grâce. C'est un bon rappel pour nous les chrétiens. Chaque fois que nous ne pardonnons pas, quand on ne pardonne pas à quelqu'un, quand on garde rancune, quand on méprise l'autre, chrétien ou pas chrétien, en fait, on est en train de renier exactement tout ce en quoi on croit, tout ce que l'évangile dit. L'évangile, c'est l'évangile du pardon. Nous avons une dette infinie, nous méritons une punition infinie, nous avons reçu un pardon infini. C'est ça l'évangile. Et lorsqu'on ne pardonne pas, on est en train de renier exactement tout ce en quoi nous croyons. En regardant la suite de notre texte, on remarque plusieurs choses au sujet du manque de pardon. La première chose, c'est que le manque de pardon est totalement irrationnel et logique et illogique. Ok, on voit ça au verset 28. Regardez verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un homme, un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu dois. C'est illogique. Il venait de recevoir le pardon de 10 000 talents, 60 millions de deniers. Et il refuse de pardonner à quelqu'un qui lui doit 100 talents. Est-ce que c'est moi qui l'ai éteint? Non. On pardonne au micro, exactement. Alors, si je parle comme ça, vous m'entendez? Oui? Ok, très bien. Très bien, aucun souci. Ah, il y a un autre qui est... oui, je pense qu'il est allumé. Il faut peut-être juste... C'est bon. Je pense qu'il est allumé, là. C'est bon. Ah, excellent. Et donc, il a été pardonné de 10 000 talents. Et il ne pardonne pas à quelqu'un qui lui doit 100 talents. C'est complètement illogique. On pourrait tous se demander quel est son problème. Ok ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? En réalité, c'est une question pour nous aussi. Quand on refuse de pardonner, si tu refuses de pardonner, quel est ton problème ? As-tu oublié le pardon infini que tu as reçu de Dieu ? Il t'a pardonné pour tes péchés passés, présents et même ceux que tu n'as pas encore commis. Quel est ton problème ? C'est illogique de ne pas pardonner, n'est-ce pas ? C.S. Lewis, je ne sais pas si vous le connaissez. Quelqu'un connaît C.S. Lewis ? Ah, excellent. C'est un excellent auteur. Il écrit super bien. C'est l'auteur des Chroniques de Narnia. Okay. Et il écrit ceci au sujet du pardon. Il dit que être chrétien signifie pardonner ce qui est inexcusable parce que Dieu a pardonné l'inexcusable en vous. Vous voyez ? Les fautes entre nous, les hommes, ne sont rien comparées au péché contre Dieu. De plus, on peut s'arrêter sur les sommes en jeu. 10 000 talents contre 100 talents. C'est 100 fois moins. Et pourtant... Regardez ce que le compagnon lui demande. C'est exactement ce que lui-même a demandé au roi dans les versets 23. C'est-à-dire qu'il a dit, aie pitié de moi et je te payerai tout. C'est ce que son compagnon lui dit, exactement la même chose. Mais il le prend et il le jette en prison. La deuxième chose qu'on voit, c'est que le manque de pardon est triste. Okay? Et on voit ça au verset 31. Le manque de pardon est triste. Regardez verset 31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ok ? Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Tristesse, frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est triste de voir des chrétiens refuser de se pardonner ? C'est triste de voir tout le mal que ça produit. Ça fait du mal à la personne qui ne reçoit pas le pardon. Ça fait du mal à la personne qui refuse de donner le pardon. Ça fait du mal aux frères et aux sœurs qui sont témoins des situations. Tristesse et désolation. Dès le début de cette parabole, Jésus dit que ce qu'il explique ici illustre la réalité du royaume des cieux. Terrible. Au verset 23, Jésus dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à... Et donc, tout ce qu'il explique là, c'est pour expliquer ce qui se passe dans le royaume de Dieu. En gros, dans le royaume des cieux, le maître mot, c'est le pardon. C'est lorsque vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé que vous ressemblez le plus à votre Père qui ne se lasse pas de pardonner. La grande question maintenant est, souhaitez-vous ressembler à Dieu? Si vous voulez ressembler à Dieu, c'est... pardonnez. C'est ça le maître mot. Pardonnez aussi vite que possible. Pardonnez autant de fois que possible. Le troisième point qu'on voit, c'est que le manque de pardon est un signe, alors c'est un peu dur, c'est un signe de méchanceté. Et ça encore, on le voit, c'est pas moi qui le dis, on le voit dans le texte. Verset 32, regardez. Il dit, alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit, méchant serviteur. Ok, tu n'as pas pardonné et donc c'est de la méchanceté. Plusieurs éléments du pardon qui ne sont pas dans ce texte-ci. Le pardon, frères et sœurs, apporte une libération intérieure. Le pardon libère le cœur de la rancune, de la colère et de la douleur. En laissant aller ces émotions négatives, nous expérimentons une liberté intérieure qui nous permet de vivre la paix et la joie. Le pardon nous permet de nous dégager du poids émotionnel qui bloque, qui nous entrave, qui nous empêche de progresser, d'aller de l'avant. Le pardon apporte une guérison émotionnelle aussi. Le pardon offre une guérison profonde et des blessures émotionnelles. Je connais une personne qui a souffert pendant presque 30 ans parce qu'une personne proche ne lui avait pas pardonné. Enfin, parce qu'une personne proche l'a offensé. Et pendant plus de 30 ans, il a souffert. Il demandait, il passait le temps à dire à cette personne, je ne te demande pas de réparer, je veux juste que tu me dises pardon. Ce pardon n'est jamais arrivé. Et l'autre jour, il y a peut-être deux semaines, une semaine même, on s'est appelé et il m'a dit que cette personne proche est décédée. Il était en souffrance. Le pardon, il y a la réconciliation. Le pardon n'apportera pas toujours la réconciliation, mais le pardon ouvre la voie vers la réconciliation avec ceux qui nous ont blessés. Il permet de reconstruire éventuellement les relations brisées. Cela ne veut pas dire qu'on oublie le mal qui a été fait, mais vous vous en souvenez, et à chaque fois que vous vous en souvenez, vous vous réjouissez du pardon que vous avez donné. Je veux dire que quand on pardonne à quelqu'un, évidemment qu'on ne devient pas amnésique. Mais quand chaque fois que la douleur de la souffrance qu'on a vécue remonte, au lieu de sombrer dans l'envie de se venger, qu'est-ce qu'on doit faire? Se réjouir du pardon qu'on a donné et avancer, se satisfaire de ce pardon-là et pardonner encore. Frères et sœurs, quelqu'un a écrit que rendre le mal pour le mal, c'est humain. C'est-à-dire que si quelqu'un vous fait du mal et que vous rendez le mal, bon, ok, on peut dire, ok, très bien, c'est humain. Rendre le mal pour le bien, c'est bestial. C'est-à-dire que quelqu'un vous fait du mal et vous faites du bien, c'est bestial. Enfin, mais rendre le bien pour le mal, c'est divin. C'est-à-dire lorsqu'on vous a fait du mal et que vous êtes capable de faire du bien en retour, c'est divin. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Alors, c'est un enseignement très simple à comprendre. Cet enseignement de cette parabole, l'histoire se déroule devant nos yeux. C'est un enseignement difficile à vivre. Vous le savez, je le sais. Que Dieu nous aide à nous souvenir de l'Évangile, qui porte l'Évangile qui soutient cette parabole pour nous aider à pardonner chaque fois que nécessaire. Ouais. Next, s'il te plaît. Alors, j'ai sauté ces deux points-là pour aller un peu plus vite. Simon Wiesenthal, qui a finalement échappé au massacre du camp de concentration, a écrit ce livre quelques années plus tard, The Sunflower. Dans ce livre, il raconte l'histoire de son séjour dans le camp de concentration. Et particulièrement, il raconte l'histoire du jeune soldat nazi qui demandait le pardon. Simon avait refusé de pardonner. N'étant pas sûr de sa décision, il va écrire un livre et terminer avec cette phrase. Qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait, frères et sœurs? Pensez aux mises en scène, aux mises en situation de tout à l'heure. Cette personne qui tue votre enfant, ce mari qui tue le bébé, qu'auriez-vous fait? En tant que chrétien, vous vous dites certainement que votre réponse sera différente de celle des rabbins qui ont été donnés. Vous auriez certainement pardonné, mais en réalité, je l'ai demandé tout à l'heure, quelle est la preuve? Qu'est-ce qui vous rassure que vous serez capable de pardonner? Au-delà de la bien-pensante, au-delà de la bonne réponse, qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qui vous garantit que vous donneriez le pardon? En réalité, si vous voulez savoir si vous pouvez pardonner d'aussi grands crimes, alors il faudrait s'assurer de pouvoir pardonner des plus petits crimes. Il faut qu'il y ait une culture de pardon forte et profonde dans vos cœurs, dans nos cœurs, frères et sœurs. Il faudrait que vous soyez capable de pardonner à ce frère qui détruit votre réputation dans l'Église. Il faudrait que vous soyez capable de pardonner à ce parent qui n'a pas joué pleinement son rôle vis-à-vis de vous. Il faudrait que vous soyez capable de pardonner à cette amie qui n'en a pas été une à ce moment où vous en aviez le plus besoin d'elle. Il faudrait que vous soyez capable de pardonner à ce conjoint qui a pris de mauvaises décisions, qui ont entraîné le couple et la famille dans des situations difficiles. Si vous n'êtes pas capable de pardonner dans ces petites choses, vous serez incapable de pardonner dans les grandes choses. Est-ce que je peux vous proposer maintenant qu'on s'arrête, qu'on baisse la tête, qu'on réfléchisse 30 secondes à toutes les situations, toutes les relations que nous avons? Peut-être qu'il y a des endroits où il y a du manque de pardon. Vous avez peut-être besoin de recevoir le pardon de quelqu'un. C'est le moment de demander à Dieu la force pour aller demander pardon. Vous avez peut-être besoin de donner le pardon à quelqu'un qui vous a offensé. C'est le moment aussi de demander à Dieu la force de pardonner, de nous souvenir que c'est lorsque nous pardonnons que nous ressemblons le plus à notre Père Céleste qui ne se lasse pas de pardonner. Pensons, réfléchissons à cela, prions silencieusement dans les cœurs et je vais prier ensuite.